Chapitre 8. Manœuvres et dispositifs de bataille. Les événements apportaient à Mariscal un concours inespéré. Aurélie, retenue à la chambre, c'était l'échec du plan proposé par Raoul. L'impossibilité de fuir et l'attente effroyable de la dénonciation. Mariscal prit d'ailleurs ses dispositions immédiates. La garde que l'on dut placer près d'Aurélie était une créature à lui, et qui, comme Raoul put s'en assurer, lui rendait compte quotidiennement de l'état de la malade. En cas d'amélioration subite, il eût agi. Oui, mais s'il n'a pas agi, c'est qu'il a des motifs qui l'empêchent encore de dénoncer publiquement Aurélie, et qu'il préfère attendre la fin de la maladie. Il se prépare. Préparons-nous aussi. Bien qu'opposé aux trop logiques hypothèses que les faits démentent toujours, Raoul avait tiré des circonstances quelques conclusions pour ainsi dire involontaires. L'étrange réalité à laquelle personne au monde n'avait songé un instant et qui était si simple, il l'entrevoyait confusément, plutôt par la force des choses que par un effort d'esprit. Et il comprenait que le moment était venu de s'y attaquer avec résolution. « Dans une expédition, disait-il souvent, la grande difficulté, c'est le premier pas. » Or, s'il apercevait clairement certains actes, les motifs de ces actes demeuraient obscurs. Les personnages du drame conservaient pour lui une apparence d'automate qui se démène dans la tempête et la tourmente. S'il voulait vaincre, il ne lui suffisait plus de défendre Aurélie au jour le jour, mais de fouiller le passé et de découvrir quelles raisons profondes avaient déterminé tous ces gens et influé sur eux au cours de la nuit tragique. Somme toute, en dehors de moi, il y a quatre acteurs de premier plan qui évoluent autour d'Aurélie et qui, tous quatre, la persécutent. Guillaume, Jodot, Mariscal et Bréjac. Sur ces quatre, il y en a qui vont vers elle par amour, d'autres pour lui arracher son secret. La combinaison de ces deux éléments, amour et cupidité, détermine toute l'aventure. Or, Guillaume est, pour l'instant, hors de cause. Bréjac et Jodot ne m'inquiètent pas tant qu'Aurélie sera malade. Reste Mariscal. Voilà l'ennemi à surveiller. Il y avait, face à l'hôtel de Bréjac, un logement vacant. Raoul s'y installa. D'autre part, puisque Mariscal employait la garde, il épia la femme de chambre et la soudoya. Trois fois en l'absence de la garde, cette femme l'introduisit auprès d'Aurélie. La jeune fille ne semblait pas le reconnaître. Elle était encore si affaiblie par la fièvre qu'elle ne pouvait dire que quelques mots sans suite et de nouveau fermer les yeux. Mais il ne doutait pas qu'elle l'entendît et qu'elle sût qu'il lui parlait ainsi de cette voix douce qui la détendait et l'apaisait comme une passe magnétique. « C'est moi, Aurélie. Vous voyez que je suis fidèle à ma promesse et que vous pouvez avoir toute confiance. Je vous jure que vos ennemis ne sont pas capables de lutter contre moi et que je vous délivrerai. Comment serait-il autrement? Je ne pense qu'à vous. Je reconstruis votre vie, et elle m'apparaît peu à peu, telle qu'elle est, simple et honnête. Je sais que vous êtes innocente. Je l'ai toujours su, même quand je vous accusais. Les preuves les plus irréfutables me semblaient fausses. La demoiselle aux yeux verts ne pouvait pas être une criminelle. Il ne craignait pas d'aller plus loin dans ses aveux, et de lui dire des mots plus tendres qu'elle était contrainte d'écouter et qu'il entremêlait avec des conseils. « Vous êtes toute ma vie. Je n'ai jamais trouvé dans une femme plus de grâce et de charme. Aurélie, confiez-vous à moi. Je ne vous demande qu'une chose, vous entendez ? La confiance. Si quelqu'un vous interroge, ne répondez pas. Si quelqu'un vous écrit, ne répondez pas. Si l'on veut vous faire partir d'ici, refusez. Ayez confiance jusqu'à la dernière minute de l'heure la plus cruelle. Je suis là. Je serai toujours là parce que je ne vis que pour vous et par vous. La figure de la jeune fille prenait une expression de calme. Elle s'endormait, comme bercée par un rêve heureux. Alors il se glissait dans les pièces réservées à Bréjac et cherchait, vainement d'ailleurs, des papiers ou des indications qui pussent le guider. Il fit aussi dans l'appartement que Marescal occupait, rue de Rivoli, des visites domiciliaires extrêmement minutieuses. Enfin, il poursuivait une enquête serrée dans les bureaux du ministère de l'Intérieur, où travaillaient les deux hommes. Leur rivalité, leur haine, étaient connues de tous. Soutenus l'un et l'autre en haut lieu, ils étaient l'un et l'autre combattus, soit au ministère, soit à la préfecture de police, par deux puissants personnages qui bataillaient au-dessus de leur tête. Le service en souffrait. Les deux hommes s'accusaient ouvertement de faits graves. On parlait de mise à la retraite. Lequel serait sacrifié ? Un jour, caché derrière une tenture, Raoul aperçut Bréjac au chevet d'Aurélie. C'était un bilieux de visage maigre et jaune, assez grand, qui ne manquait pas d'allure, et qui, en tout cas, avait plus d'élégance et de distinction que le vulgaire Marescal. Se réveillant, elle le vit, qui était penché sur elle.
Oh, laissez-moi, laissez-moi.
Comme tu me détestes, et avec quelle joie tu me ferais du mal.
Je ne ferai jamais de mal à celui que ma mère a épousé.
Il la regardait avec une souffrance visible.
« Tu es bien belle, ma pauvre enfant. Mais hélas, pourquoi as-tu toujours repoussé mon affection ? Oui, je sais, j'ai eu tort. Bien longtemps, je n'ai été attiré vers toi que par ce secret que tu me cachais sans raison. Mais si tu n'étais pas obstiné dans un silence absurde, je n'aurais pas songé à d'autres choses qui sont un supplice pour moi. » Puisque jamais tu ne m'aimeras, puisqu'il n'est pas possible que tu m'aimes. »
La jeune fille ne voulait pas écouter et tournait la tête.
« Durant ton délire, tu as parlé souvent de révélations que tu voulais me faire. Était-ce à ce propos, ou bien à propos de ta fuite insensée avec ce Guillaume ? « Où t'a-t-il conduite, le misérable ? Qu'êtes-vous devenu avant que tu aies été réfugié dans ton couvent ?»
Elle ne répondit pas, par épuisement, peut-être par mépris. Il se tut. Quand il fut parti, Raoul, en s'éloignant à son tour, vit qu'elle pleurait. En résumé, au bout de deux semaines d'investigation, tout autre que Raoul se fût découragé. D'une façon générale, et en dehors de certaines tendances qu'il avait à les interpréter à sa manière, les grands problèmes demeuraient insolubles, ou du moins ne recevaient pas de solution apparente. Mais je ne perds pas mon temps, et c'est l'essentiel. Agir consiste très souvent à ne pas agir. L'atmosphère est moins épaisse. Ma vision des êtres et des événements se précise et se fortifie. Si le fait nouveau manque encore, je suis au cœur même de la place, à la veille d'un combat qui s'annonce violent, alors que tous les ennemis mortels vont s'affronter. Les nécessités du combat et le besoin de trouver des armes plus efficaces amèneront certainement le choc inattendu, d'où jailliront des étincelles. il en jaillit une plus tôt que Raoul ne pensait, et qui éclaira un côté des ténèbres où il ne croyait pas que pût se produire quelque chose d'important. Un matin, le front collé aux vitres et les yeux fixés sur les fenêtres de Bréjac, il revit, sous son accoutrement de chiffonnier, le complice Jodot. Jodot, cette fois, portait sur l'épaule une poche de toile où il jetait son butin. Il la déposa contre le mur même de la maison, s'assit sur le trottoir et se mit à manger, tout en farfouillant dans la plus proche des boîtes. Le geste semblait machinal, mais au bout d'un instant, Raoul discerna aisément que l'homme n'attirait à lui que des enveloppes froissées et des lettres déchirées. Il y jetait un coup d'œil distrait, puis continuait son tri. Sans aucun doute, la correspondance de Bréjac l'intéressait. Après un quart d'heure, il rechargea sa poche et s'en alla. Raoul le suivit jusqu'à Montmartre, où Jodot tenait une boutique de friperie. Il revint 3 jours de suite, et chaque fois, il recommençait exactement la même opération équivoque. Mais le 3e jour, qui était un dimanche, Raoul surprit Bréjac, qui épiait derrière sa fenêtre. Lorsque Jodot partit, Bréjac, à son tour, le suivit avec d'infinies précautions. Raoul les accompagna de loin. Allait-il connaître le lien qui unissait Bréjac et Jodot? Ils traversèrent ainsi, les uns derrière les autres, le quartier Monceau, franchirent les fortifications et gagnèrent, à l'extrémité du boulevard Binot, les bords de la Seine. Quelques villas modestes alternaient avec des terrains vagues. Contre l'une d'elles, Jodot déposa sa poche et, s'étant assis, mangea. Il resta là durant 4 ou 5 heures, surveillé par Bréjac, qui déjeunait à 30 mètres de distance sous les tonnelles d'un petit restaurant, et par Raoul, qui, étendu sur la berge, fumait des cigarettes. Quand Jodot partit, Bréjac s'éloigna d'un autre côté, comme si l'affaire avait perdu tout intérêt. Et Raoul entra au restaurant, s'entretint avec le patron, et apprit que la villa contre laquelle Jodot s'était assis appartenait, quelques semaines auparavant, aux 2 frères Loubeau, assassinés dans le rapide de Marseille par 3 individus. La justice y avait mis les scellés et en avait confié la garde à un voisin, lequel, tous les dimanches, allait se promener. Raoul avait tressailli en entendant le nom des frères Loubeau. Les manigances de Jodot commençaient à prendre une signification. Il interrogea plus à fond et sut ainsi que, à l'époque de leur mort, les frères Loubeau habitaient fort peu cette villa qui ne leur servait plus que comme entrepôt pour leur commerce de vin de champagne. Ils s'étaient séparés de leur associé et voyageaient à leur compte. « Leur associé ?» demanda Raoul. « Oui, lui répliqua-t-on. Son nom est encore inscrit sur la plaque de cuivre accrochée près de la porte. Loubeau, frère, et Jodot. » Raoul réprima un mouvement. « Jodot ?»« Oui, lui expliqua-t-on. Un gros homme à figure rouge, l'air d'un colosse de foire, qu'on n'a jamais revu par ici depuis plus d'une année. » Renseignement d'une importance considérable, se dit Raoul une fois seul. Ainsi, Jodot était autrefois l'associé des 2 frères qu'il devait tuer par la suite. Rien d'étonnant d'ailleurs si la justice ne l'a pas inquiété, puisqu'elle n'a jamais soupçonné qu'il y ait eu un Jodot dans l'affaire, et puisque Mariscal est persuadé que le 3e complice, c'est moi. Mais alors, pourquoi l'assassin Jodot vient-il au lieu même où demeuraient jadis ses victimes? Et pourquoi Bréjac surveille-t-il cette expédition? La semaine s'écoula sans incident. Jodot ne reparut plus devant l'hôtel de Bréjac. Mais le samedi soir, Raoul, persuadé que l'individu retournerait à la villa le dimanche matin, franchit le mur qui entourait un terrain vague contigu et s'introduisit par une des fenêtres du premier étage. À cet étage, deux chambres étaient meublées encore. Des signes certains permettaient de croire qu'on les avait fouillées. Qui ? Des agents du parquet ? Bréjac ? Jodo ? Pourquoi ? Raoul ne s'obstina point. Ce que d'autres étaient venus chercher, ou bien ne s'y trouvaient pas, ou bien ne s'y trouvaient plus. Il s'installa dans un fauteuil pour y passer la nuit. Éclairé par une petite lanterne de poche, il prit sur une table un livre dont la lecture ne tarda pas à l'endormir. La vérité ne se révèle qu'à ceux qui la contraignent à sortir de l'ombre. C'est bien souvent lorsqu'on la croit lointaine qu'un hasard vient l'installer tout bonnement à la place qu'on lui avait préparée. Et le mérite en est justement à la qualité de cette préparation. En s'éveillant, Raoul revit le livre qu'il avait parcouru. Le cartonnage était revêtu d'une espèce de lustrine prélevée sur un de ces carrés d'étoffe noire qu'emploient les photographes pour couvrir leur appareil. Il chercha. Dans le fouillis d'un placard rempli de chiffons et de papiers, il retrouva l'une de ces étoffes. Trois morceaux y avaient été découpés en rond, chacun de la grandeur d'une assiette.
« Ça y est, j'y suis en plein. Les trois cagoules des bandits du rapide viennent. Cette étoffe est la preuve irréfutable. Ce qui s'est produit, elle l'explique et le commente. »
La vérité lui paraissait maintenant si naturelle, si conforme aux intuitions inexprimées qu'il en avait eues, et en une certaine mesure si divertissante par sa simplicité, qu'il se mit à rire dans le silence profond de la maison.
Parfait ! Parfait ! De lui-même, le destin m'apportera les éléments qui me manquent. Désormais, il entre à mon service. Et tous les détails de l'aventure vont se précipiter à mon appel et se ranger en pleine lumière.
À 8 heures, le gardien de la villa fit sa tournée du dimanche au rez-de-chaussée et barricada les portes. À 9 heures, Raoul descendit dans la salle à manger et, tout en laissant les volets clos, ouvrit la fenêtre au-dessus de l'endroit où Jodo était venu s'asseoir. Jodo fut exact. Il arriva avec son sac qu'il appuya au pied du mur. Puis il s'assit et mangea. Et tout en mangeant, il monologuait à voix basse, si basse que Raoul n'entendait rien. Le repas, composé de charcuterie et de fromage, fut arrosé d'une pipe dont la fumée montait jusqu'à Raoul. Il y eut une seconde, puis une troisième pipe. Et ainsi passèrent 2 heures, sans que Raoul pût comprendre les motifs de cette longue station. Par les fentes des volets, on voyait les deux jambes enveloppées de loques et les godillots éculés. Au-delà, le fleuve coulait. Des promeneurs allaient et venaient. Bréjac devait être en faction dans une des tonnelles du restaurant. Enfin, quelques minutes avant midi, Jodo prononça ces mots.
« Et alors, rien de nouveau ? Avoue qu'elle est tout de même raide, celle-là. »
Il semblait parler non à lui-même, mais à quelqu'un qui eût été près de lui. Pourtant, personne ne l'avait rejoint. Il n'y avait personne près de lui.
Eh bon sang de crébleu ! Mais je te dis qu'elle est là ! Ce n'est pas une fois que je l'ai tenue dans ma main et vue de mes yeux vus. T'as bien fait ce que je t'ai dit ? Tout le côté droit de la cave, comme l'autre jour le côté gauche. Alors, t'aurais dû trouver !
Il se tut assez longtemps, puis reprit.
On pourrait peut-être essayer autre part, et pousser jusqu'au terrain vague, derrière la maison, au cas où ils auraient jeté la bouteille là, avant le coup du rapide. C'est une cachette en plein air qui en vaut une autre. Et si Bréjac a fouillé la cave, il n'aura pas pensé au dehors. Ben vas-y et cherche. Je t'attends.
Raoul n'écouta pas davantage. Il avait réfléchi et commençait à comprendre, depuis que Jodot avait parlé de la cave. Cette cave devait s'étendre d'un point à l'autre de la maison, avec un soupirail sur la rue et un autre sur l'autre façade. La communication était aisée par cette voie. Vivement, il monta au premier étage, dont une des chambres dominait le terrain vague, et tout de suite, il constata la justesse de sa supposition. Au milieu d'un espace non construit, où se dressait une pancarte avec ces mots « à vendre », parmi des amas de ferrailles, des tonnes démolies et des bouteilles cassées, un petit bonhomme de 7 ou 8 ans, chétif, d'une minceur incroyable sous le maillot gris qui lui collait au corps, cherchait, se faufilait et se glissait avec une agilité d'écureuil. Le cercle de ses investigations, qui semblait avoir pour but unique la découverte d'une bouteille, se trouvait singulièrement rétréci. Si Jodot ne s'était pas trompé, l'opération devait être brève. Elle le fut. Après 10 minutes, ayant écarté quelques vieilles caisses, l'enfant se relevait et, sans perdre de temps, se mettait à courir vers la villa avec une bouteille au goulot brisé et grise de poussière. Raoul dégringola jusqu'au rez-de-chaussée afin de gagner la cave et de soustraire à l'enfant son butin. Mais la porte du sous-sol, qu'il avait remarquée dans le vestibule, ne put être ouverte et il reprit sa faction devant la fenêtre de la salle. Jodot murmurait déjà
« Ça y est, es-tu là ? Chic alors ! Me voilà paré ! L'ami Bréjac pourra plus m'embêter ! Vite, enfonde-toi ! »
Le petit dut s'enfourner, ce qui consistait évidemment à s'aplatir entre les barreaux du soupirail et à ramper comme un furet jusqu'au fond du sac, sans qu'aucun soubresaut de la toile indiquât son passage. Et aussitôt, Jodot se dressa, jeta son fardeau sur l'épaule et s'éloigna. Sans la moindre hésitation, Raoul fit sauter les scellés, fractura les serrures et sortit de la villa. À 300 mètres, Jodot cheminait, portant le complice qui lui avait servi d'abord à explorer le sous-sol de l'hôtel Bréjac, puis celui de la villa des frères Loubeau. 100 mètres en arrière, Bréjac serpentait entre les arbres. Et Raoul s'aperçut que sur la Seine, un pêcheur à la ligne ramait dans le même sens. Marescal. Ainsi donc, Jodot était suivi par Bréjac. Bréjac et Jodot par Marescal, et tous trois par Raoul. Comme enjeu de la partie, la possession d'une bouteille.
Voilà qui est palpitant. Jodot tient la bouteille, c'est vrai. Mais il ignore qu'on la convoite.
Qui sera le plus malin des trois autres larrons? S'il n'y avait pas Lupin, je parierais pour Marescal.
Mais il y a Lupin.
Jodot s'arrêta. Bréjac en fit autant. Et de même Marescal dans sa barque. Et de même Raoul. Jodot avait allongé sa poche, de manière que l'enfant fût à l'aise. Et assis sur un banc, il examinait la bouteille, l'agitait et la faisait miroiter au soleil. C'était le moment d'agir pour Bréjac. Ainsi pensa-t-il, et très doucement, il approcha. Il avait ouvert un parasol, et le tenait comme un bouclier dont il s'abritait le visage. Sur son bateau, Marescal disparaissait sous un vaste chapeau de paille. Lorsque Bréjac fut à 3 pas du banc, il ferma son parasol, bondit sans se soucier des promeneurs, agrippa la bouteille et prit la fuite par une avenue qui le ramenait du côté des fortifications. Ce fut proprement exécuté et avec une admirable promptitude. À Ahuri, Jodo hésita, cria, saisit sa poche, la redéposa, comme s'il eût craint de ne pouvoir courir assez vite avec ce fardeau. Bref, fut mis hors de cause. Mais Marescal, prévoyant l'agression, avait atterri et s'était élancé. Raoul en fit autant. Il n'y avait plus que 3 compétiteurs. Bréjac, tel un bon champion, ne pensait qu'à courir et ne se retournait pas. Marescal ne pensait qu'à Bréjac et ne se retourna pas davantage, de sorte que Raoul ne prenait aucune précaution. À quoi bon ? En 10 minutes, le premier des 3 coureurs atteignit la porte des ternes. Bréjac avait tellement chaud qu'il ôta son pardessus. Près de l'octroi, un tramway s'arrêtait, et de nombreux voyageurs attendaient à la station pour monter et rentrer dans Paris. Bréjac se mêla à cette foule. Marescal aussi. Le receveur appela les numéros. Mais la bousculade fut si forte que Marescal n'eut aucune peine à tirer la bouteille de la poche de Bréjac, et que celui-ci ne s'aperçut de rien. Marescal aussitôt franchit l'octroi et reprit ses jambes à son cou.
Et de deux, mes bonhommes s'éliminent entre eux, et chacun travaille pour moi.
Lorsque, à son tour, Raoul passa l'octroi, il vit Bréjac qui faisait des efforts désespérés pour sortir du tramway malgré la foule et pour se mettre à la poursuite de son voleur. Celui-ci choisissait les rues parallèles à l'avenue des Ternes, lesquelles sont plus étroites et plus tortueuses. Il courait comme un fou. Quand il fit halte sur l'avenue de Wagram, il était à bout de souffle. Le visage en sueur, les yeux injectés de sang, les veines gonflées, il s'épongea un instant. Il n'en pouvait plus. Il acheta un journal et enveloppa la bouteille, après y avoir jeté un coup d'œil. Puis il la plaça sous son bras et repartit d'un pas chancelant, comme quelqu'un qui ne tient debout que par miracle. En vérité, le beau Marescal ne se redressait plus. Son faux col était tordu comme un linge mouillé. Sa barbe se terminait par 2 pointes d'où tombaient des gouttes. C'est un peu avant la place de l'Étoile qu'un monsieur à grosses lunettes noires, qui venait en sens contraire, se présenta à lui, une cigarette allumée aux lèvres. Le monsieur lui barra la route et, bien entendu, ne lui demanda pas de feu, mais sans un mot, lui souffla sa fumée au visage, avec un sourire qui découvrait des dents presque toutes pointues, comme des canines. Le commissaire écarquilla les yeux.
« Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? »
Mais à quoi bon interroger ? Ne savait-il pas que c'était là son mystificateur ? Celui qu'il appelait le troisième complice, l'amoureux d'Aurélie, et son éternel ennemi, à lui, Marescal. Et cet homme, qui lui paraissait le diable en personne, tendit le doigt vers la bouteille et prononça d'un petit ton de plaisanterie affectueuse.
« Allons, Aboul, sois gentil avec le monsieur, Aboul.
Oh, est-ce qu'un commissaire de ton grade se balade avec une bouteille ? Allons, Rodolphe.
Aboul !»
Marescal flancha aussitôt. Crier, appeler au secours, ameuter les promeneurs contre l'assassin, il en eût été incapable. Il était fasciné. Cet être infernal lui enlevait toute énergie. Et stupidement, sans avoir une seconde l'idée de résister, comme un voleur qui trouve tout naturel de restituer l'objet dérobé, il se laissa prendre la bouteille que son bras ne pouvait plus tenir. À ce moment, Bréjac survenait, hors d'haleine lui aussi, et sans force non plus, ni pour se précipiter sur le troisième larron, ni pour interpeller Marescal. Et tous deux, plantés au bord du trottoir, abasourdis, ils regardèrent le monsieur aux lunettes rondes qui hélait une automobile, s'y installer et leur envoyer par la fenêtre un grand coup de chapeau. Une fois rentré chez lui, Raoul défit le papier qui enveloppait la bouteille. C'était un litre comme on s'en sert pour les eaux minérales. Un vieux litre, sans bouchon, à verre opaque et noir. Sur l'étiquette, sale et poussiéreuse aussi, et qui avait tout de même dû être protégée contre les intempéries, une inscription en grosses lettres imprimées se lisait aisément. « Eau de Jouvence ». Dessous, plusieurs lignes qu'il eut du mal à déchiffrer et qui constituaient évidemment la formule même de cette eau de Jouvence. Bicarbonate de soude, 1349 grammes. De potasse, 0,435 grammes. De chaux, 1000 grammes millicurie, etc. Mais la bouteille n'était pas vide. À l'intérieur, quelque chose remuait, quelque chose de léger qui faisait le bruit d'un papier. Il retourna le litre, le secoua, rien ne sortait. Alors, il y glissa une ficelle terminée par un gros nœud, et ainsi, à force de patience, il extirpa une très mince feuille de papier, roulée en tube et maintenue par un cordon rouge. L'ayant développée, il vit que cela ne constituait guère que la moitié d'une feuille ordinaire, et que la partie inférieure avait été coupée, ou plutôt déchirée, de façon inégale. Des caractères y étaient tracés à l'encre, dont beaucoup manquaient, mais qui lui suffirent à former ces quelques phrases. L'accusation est vraie, et mon aveu est formel. Je suis seul responsable du crime commis, et l'on ne doit s'en prendre ni à Jodot, ni à Loubeau. Bréjac. Dès le premier coup d'œil, Raoul avait reconnu l'écriture de Bréjac, mais tracée d'une encre blanchie par le temps, et qui permettait, ainsi que l'état du papier, de faire remonter le document à 15 ou 20 ans en arrière. Quel était ce crime? Et contre qui avait-il été commis? Il réfléchit un long moment. Après quoi, il conclut à mi-voix. Toute l'obscurité de l'affaire provient de ce qu'elle était double, et que deux aventures s'y mêlaient, deux drames, dont le premier commande le second. Celui du rapide, avec comme personnage les deux Loubeau, Guillaume, Jodot et Aurélie. Et un premier drame qui eut lieu jadis, et dont aujourd'hui deux des acteurs se heurtent, Jodot et Bréjac. La situation, de plus en plus complexe pour qui ne posséderait pas le mot de la serrure, devient pour moi de plus en plus précise. L'heure de la bataille approche, et l'enjeu, c'est Aurélie, ou plutôt le secret qui palpite au fond de ses beaux yeux verts. Qui sera, durant quelques instants, par la force, par la ruse ou par l'amour, maître de son regard et de sa pensée, sera maître de ce secret, pour lequel il y a déjà eu tant de victimes. Et dans ce tourbillon de vengeance et de haine cupide, Maresca la porte, avec ses passions, ses ambitions et ses rancunes, cette effroyable machine de guerre qu'est la justice. En face, moi. Il se prépara minutieusement et avec d'autant plus d'énergie que chacun des adversaires multipliait les précautions. Bréjac, sans aucune preuve formelle contre la garde qui renseignait Marescal et contre la femme de chambre que Raoul avait soudoyée, les renvoya toutes deux. Les volets des fenêtres qui donnaient par devant furent fermés. D'autre part, des agents de Marescal commençaient à se montrer dans la rue. Seul Jodot n'apparaissait plus. Désarmé sans doute par la perte du document où Bréjac avait consigné ses aveux, Il devait se terrer dans quelque retraite sûre.
Cette période se prolongea durant 15 jours. Raoul s'était fait présenter sous un nom d'emprunt à la femme du ministre qui protégeait ouvertement Marescal, et il avait réussi à pénétrer dans l'intimité de cette dame un peu mûre, fort jalouse, et pour qui son mari n'avait aucun secret. Les attentions de Raoul la transportèrent de joie. Sans se rendre compte du rôle qu'elle jouait, et ignorant d'ailleurs la passion de Marescal pour Aurélie, heure par heure, elle tint Raoul au courant des intentions du commissaire, de ce qu'il combinait à l'égard d'Aurélie, et de la façon dont il cherchait, avec l'aide du ministre, à renverser Bréjac et ceux qui le soutenaient. Raoul eut peur. L'attaque était si bien organisée qu'il se demanda s'il ne devait pas prendre les devants, enlever Aurélie et démolir ainsi le plan de l'ennemi. Et après, en quoi la fuite m'avancerait-elle? Le conflit resterait le même et tout serait à recommencer. Il sut résister à la tentation. Une fin d'après-midi, rentrant chez lui, il trouva un pneumatique. La femme du ministre lui annonçait les dernières décisions prises, entre autres l'arrestation d'Aurélie fixée au lendemain 12 juillet à 3 heures du soir. Pauvre demoiselle aux yeux verts. Aura-t-elle confiance en moi, envers et contre tous, comme je lui ai demandé? N'est-ce pas encore des larmes et de l'angoisse pour elle? Il dormit tranquillement, comme un grand capitaine à la veille du combat. À 8 heures, il se leva. La journée décisive commençait. Or, vers midi, comme la bonne qui le servait, sa vieille nourrice Victoire, rentrait par la porte de service avec son filet de provisions, 6 hommes, postés dans l'escalier, pénétrèrent de force dans la cuisine.
« Votre patron est là ? Allons, ouste, pas la peine de mentir. Je suis le commissaire Marescal, et j'ai un mandat contre lui. »
Livide, tremblante, elle murmura
« Dans son bureau. »
« Conduisez-nous. »
Il appliqua sa main sur la bouche de Victoire pour qu'elle ne pût avertir son maître, et on la fit marcher le long d'un corridor au bout duquel elle désigna une pièce. L'adversaire n'eut pas le temps de se mettre en garde. Il fut empoigné, renversé, attaché et expédié ainsi qu'un colis. Marescal lui jeta simplement
« Vous êtes le chef des bandits du rapide. Votre nom, Raoul de Limésy. »
Et s'adressant à ses hommes
« Au dépôt, voici le mandat. Et de la discrétion, hein ? Pas un mot sur la personnalité du client. Tony, vous répondez de lui, hein ? Vous aussi, la bonce. Emmenez-le. Et rendez-vous à 3 heures devant la maison de Bréjac. Ce sera le tour de la demoiselle et l'exécution du beau-père. »
4 hommes emmenèrent le client. Marescal retint le 5e, Sauvino. Aussitôt, il visita le bureau et fit main basse sur quelques papiers et objets insignifiants. Mais ni lui, ni son acolyte Sauvino ne trouvèrent ce qu'ils cherchaient. La bouteille, où 15 jours auparavant, sur le trottoir, Marescal avait eu le temps de lire « Eau de Jouvence ». Ils allèrent déjeuner dans un restaurant voisin. Puis ils revinrent. Marescal s'acharnait. Enfin, à 2h15, Sauvino dénicha, sous le marbre d'une cheminée, la fameuse bouteille. Elle était munie d'un bouchon et rigoureusement cachetée de cire rouge. Marescal la secoua et la plaça devant la clarté d'une ampoule électrique. Elle contenait un mince rouleau de papier. Il hésita. Lirait-il ce papier ?
« Non, non, pas encore. Devant Bréjac, Bravo, Sauvinou. Vous avez bien manœuvré, mon garçon. »
Sa joie a débordé, et il partit en murmurant
« Cette fois, nous sommes près du but. Je tiens Bréjac entre mes deux mains, et je n'ai qu'à serrer l'étau. Quant à la petite, plus personne pour la défendre. Son amoureux est à l'ombre. À nous deux, ma chérie. »